RMC.
PLM et tous les compagnies, bon, PLM par-ci, PLM par-là. On a le droit d'exister un petit peu ou pas?
RMC Football Show.
Très 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 compliqué pour ces deux équipes. Je pense que l'équipe qui va recevoir aura peut-être l'avantage à domicile de jouer à la maison.
Jusqu'à minuit, c'est l'After Foot.
Oh, bordel de merde, que c'est bon.
Gilbert Bribois.
Jusqu'à minuit, l'After et la Jérôme Rotten, Daniel Riolo. Dans quelques instants, les drôles de l'âme. Mais on va conclure notre heure. On a un peu débordé, hein, mais bon, c'est comme ça l'After. Notre heure Ligue 1 avec Benita qui nous rejoint. Bonsoir.
Bonsoir à tous, bonsoir tout le monde.
Tu vas bien?
Ça, vous m'avez manqué.
Bah ouais, ça fait longtemps que tu nous as pas appelé là.
Le travail, vous savez, les filles, je suis jeune. Voilà.
Ah, ok. Très bien, t'as raison, profite. T'as raison.
Ce sont des bonnes excuses.
Tu voulais parler de Rabiot.
Encore? Ah, moi, je m'exclus du débat, j'en ai trop parlé.
Ah, Daniel, j'aime trop qu'on va directement, il fuit.
Oh, non, mais je te laisse parler.
Je parle avec
Jérôme, là.
Ah, non, aussi, j'en ai bouffé, mais
j'en
vas-y.
Plus de Rabiot, là, j'en ai trop bouffé.
Je vais essayer de prendre le même ton que Monsieur Riolo en parlant de cette histoire, et je veux dire, Rabiot, ça suffit, quoi. Faut arrêter, mais quand je dis que ça suffit dans tous les sens du terme. Autant pour ceux qui accusent que ceux qui sont d'accord. Ceux qui le défendent, moi, je fais partie, entre guillemets, de ceux qui le défendent parce que je dis que on en a tellement fait et au final, je pense qu'on n'a pas spécialement toutes les informations, on connaît pas toutes les essences, tout ce qui s'est dit, pas dit, signé, pas signé, Madame Rabiot qui dit que, lui qui dit que, et au final, nous, on est au milieu de tout ça, supporters et même personnes qui aiment le foot, on s'en fout de ça. Nous, ce qu'on veut, à la fin, c'est une équipe au complet qui tourne bien. Si Rabiot, il est là et qu'il s'investit à 200% dans le rôle qu'on lui a accordé, dans la place qu'on lui a donnée et dans l'efficacité qu'on lui connaît, c'est bien. On y va. Contre Chelsea, t'as été là plusieurs fois, je crois. Les deux fois, je crois que c'était lui qui... Donc voilà, il est là, Rabiot. Il sait faire des choses.
Maintenant, tu trouves qu'on est un peu dur, de façon générale, avec Rabiot?
Non, je trouve que lui aussi, il se rend la vie dure, parce que...
Il veut qu'on liquide l'affaire et qu'on passe à autre chose.
Ouais, voilà, exactement. C'est-à-dire que les choses, elles sont faites. Elles sont actées. Au préalable. C'est-à-dire que lui...
Mais moi, je suis d'accord avec toi. C'est pour ça que je voulais pas qu'on en parle. Passons à autre chose, maintenant.
En gros, toi, t'es dans le... Tu veux plus qu'on en parle, mais il faut pas oublier ce qu'il a fait avant. C'est ça,
exactement.
En fait.
C'est-à-dire que, bon, je vois les supporters, ils sont là.
Rabiot, ce qu'il a fait aussi en bien, positivement. Si je comprends bien.
Ah, c'est pas non plus du siècle, hein. Il aura pas marqué l'histoire du club. Faut pas s'enflammer, hein.
Moi, c'est là-dessus que je voulais rebondir, parce que quand tu te cites, bien sûr, qu'il y a eu des matchs contre Chelsea, il y a eu, je me rappelle son entrée à Madrid, même s'il y avait une défaite, mais il avait été très bon. C'est là qu'on l'avait vraiment découvert au haut niveau. Mais franchement, moi, il fait, dans ma tête, et surtout comme ça se passe depuis, il fait partie de cette équipe qui flanchait dans les moments clés, sur des matchs à élimination directe, le match à Barcelone. Alors celui-là, c'est
meilleur match, probablement le match aller.
Oui, quand il gagne, ouais, bah, comme beaucoup, hein.
Oui, mais là, il était vraiment
comme beaucoup, Daniel. Ils sont tous transcendés, voilà. Mais après, moi, ce que je lui reproche, déjà sur le terrain, avant de parler tout ce qui s'est passé, ses discours, je veux pas signer, j'aurais dû, je veux partir, je veux pas partir, bon, ça, on s'en fout, c'est ses prestations sur le terrain qui, moi, à mon sens, entre la fin de saison dernière, l'attitude qu'il a eue aussi avec la sélection, les matchs qu'il a fait avec la sélection, il a jamais été au rendez-vous. Et après, sur ce début de saison, où Thomas Tuchel, même s'il avait pas re-signé, ils étaient en discussion, il l'a placé titulaire, il l'a mis dans son rôle devant la défense, un petit peu plus haut, parce que monsieur voulait pas toujours jouer là. Et l'attitude qu'il avait, je suis désolé, mais c'était pas l'attitude d'un joueur qui avait vraiment envie de rester au club et qui avait vraiment envie de tout donner pour que le Paris Saint-Germain passe un cap. Et comme par hasard, depuis qu'il n'est plus dans l'équipe titulaire, eh ben, t'as l'impression que y a du caractère qui ressort de cette équipe, que il y a une alchimie dans le groupe.
Ouais,
que,
c'est vrai.
Pas anodin. Alors c'est pas que lui, mais je pense que ça fait partie aussi de la réflexion.
L'évolution, en tout cas, se fera sans lui.
Sans lui.
Voilà. Il a raté le train.
Je peux dire le mot de la fin.
Oui, tu peux.
Ce que je voulais dire aussi, c'est que bon, moi, vous savez très bien que je suis supporter du FC Barcelone, donc. Je suis quand même plus ou moins ce qui se passe, les tractations, etc. Je me dis aussi, c'est toujours ça, c'est que tous les joueurs qui partent de Paris qu'on critique, dès qu'ils vont ailleurs, ce qui m'énerve, c'est qu'il y en a beaucoup ça se passe bien pour eux. Donc je me dis que en France, je suis supporter du PSG parce que je vois ce qu'ils font et j'apprécie ce qu'ils font. Mais comme j'ai déjà dit à Daniel, ce qui m'a fait aimer le foot, on avait eu un long débat sur ça, parce qu'il me disait que c'était un footix, mais moi, ce qui m'a fait aimer le foot et comprendre le foot, et ce qui m'a permis d'analyser le foot dans toute son, dans toute sa truc, c'est le Barça. Donc je me dis, il va aller au Barça, et si il arrive à s'incorporer dans l'équipe et à bien jouer dans l'équipe, qu'est-ce que là on pourra dire?
Mais on lui souhaite, mais ça effacera pas sa dernière année au Paris Saint-Germain et ses 6 premiers mois là. Il faut aussi retenir une chose, c'est que peut-être que lui a besoin, et c'est pour ça qu'il veut pas signer au club, mais c'était facile de le dire. Moi, si, c'est ce que je le reproche.
Il a besoin d'un nouveau départ, non, mais il va peut-être se lâcher ailleurs.
Tu sais, Daniel, tu lis entre les lignes ce qu'elle a dit sa maman aujourd'hui ou hier dans la presse. C'est exactement ça. Oui, il a fait un certain temps. Pour elle, rester plus de 3 ans dans un club, c'est un miracle. Bon, ça, je pense qu'elle a pas regardé tous les clubs et tous les joueurs qui sont restés un bout de temps. Non, mais bon, c'est ce qu'elle a dit. Et que lui, au bout de 3 ans, c'est ce que j'ai ressenti. Je pense que quand il y a eu ses premières discussions avec le club pour renégocier, il a dit, je veux partir. Donc ça fait 2 ans en fait que dans sa tête il veut partir, et c'est pour ça que ça traduit peut-être que depuis un an et demi, eh ben il est plus en progression, il est en régression. Et peut-être qu'il a besoin en effet d'un nouveau challenge, de se remettre en question, parce que là, arrivé à Barcelone ou à la Juve ou je sais pas où, là il est plus rien. Il est plus rien.
Benita, je t'envoie un t-shirt, tiens, je t'envoie un t-shirt Villas, tiens.
Merci beaucoup. Merci,
c'est cadeau. Beaucoup. Salut Benita, à bientôt. Salut. Rappelle quand tu veux. Merci. On passe au drôle de dame.
Oui.
Non, parce qu'elles sont là. Hein.
Oui, non, je regardais la photo avec nos t-shirts, on est bien, c'est pas mal.
On est au top. Attention, j'accueille par ordre d'importance dans le monde du football mondial, en premier bien sûr, Fred Hermel, tenant du titre de la Ligue des Champions. Salut Fredo.
Mais je reste simple. Hola Ticos.
Salut Fred.
Salut les amis.
Attention, hein, Fred Hermel, toujours présent sur le terrain, bien sûr, plus que jamais. En deuxième, on mettrait qui dans le monde du football?
À l'Angleterre.
Julien Ross, il est un peu en retard. Décalage horaire, tout ça, il arrive dans 10 minutes. Donc,
historiquement, entre l'Allemagne et l'Italie, ça se joue. Hein.
Ouais.
Et à l'heure actuelle, la Juve est un peu
En nombre
peu
de Coupes du Monde, qui est devant?
L'Italie.
La Juve, elle est devant.
Égalité.
La Juve est devant le Bayern.
La Juve est devant le Bayern actuellement. Quand même.
Bon, allez. Simone Rovera, bonsoir.
Ciao, buonasera, bonsoir.
Ça a été dur, hein, d'arriver deuxième.
C'est vrai.
Bon. Merci.
Mais t'es déjà en Italie.
Ta femme est rentrée, au fait.
Il y a trop de questions personnelles, là, pour commencer un after. Oui et oui, quand même.
Ah, très bien.
Tout va bien.
D'accord. Merci. Tout va bien.
Non, parce qu'apparemment, il y a des mélanges de couples dans les drôles de l'âme.
Oui, ils font ce qu'ils veulent. Les gens sont libres d'envisager les choses.
J'ai passé la dernière soirée en France avant de partir à écouter ma femme raconter qu'est-ce que c'est incroyable la maison de Fred Hermel, quel personnage génial est Fred Hermel, qu'il est agréable, il est sympa, il est... J'ai eu une soirée 100% Fred Hermel dans les oreilles.
Oui, là,
il était pas là, imaginez.
Oui.
C'est bizarre cette histoire. Ouais,
ça commence à devenir un peu troublant, mais bon.
Ouais.
Non, louche. Simone, notre amitié est au-dessus de tout.
Ouais, bah ça t'arrange, je peux dire ça.
David Dorto, qui n'a rien à voir avec
mec
tout ça.
Il a quitté le club à Guingamp pour une histoire de ce genre.
Merde. David Lorto, lui, est en direct de Rostock, comme de coutume. Salut David.
Allô, Freunde. Alors, je confirme, messieurs, que Fred Hermel est un homme délicieux.
Ah, je croyais que tu confirmais ce qu'a dit David.
Il n'a qu'une Coupe du Monde, si je ne m'abuse.
C'est vrai.
Oui, bien sûr. Enfin, comme Français, deux.
Ah oui,
foot espagnol, une, bien sûr. Ouais.
Bon, alors on y va pour vos questions, les gars, au drôle de dame. On a Julien Laurence qui nous rejoint dans quelques instants. Hein. Il va arriver. Je vais démarrer avec toi, Fred. J'ai une question de Adrien qui lui dit le départ de Valverde de Bilbao.
Il se fait chier, maintenant, écoute l'after et pose des questions.
Bah ouais. Le départ de Valverde de Bilbao peut-il à lui tout seul expliquer les mauvais résultats de l'Athletic qui, c'est vrai, et pourrait peut-être descendre, hein.
C'est jamais arrivé, hein, il me semble.
Exactement. Alors, on va commencer par ça. Si l'Athletic Club de Bilbao descend en deuxième division, ce sera un véritable séisme dans le foot espagnol. Puisque seulement dans l'histoire de toute la première division espagnole, Seulement trois clubs ne sont jamais descendus, le Real, le Barça et l'Athletic. Et c'est d'ailleurs trois clubs qui appartiennent à leurs socios, à leurs membres, vous savez, et qui, dont les présidents sont élus tous les quatre ans. Aujourd'hui, l'Athletic Club est vraiment en danger, vraiment en danger. Et bien entendu, ce n'est le départ de Valverde n'a pas aidé, mais enfin, le mal est beaucoup plus profond. Il y a un président, voilà, qui est un ancien joueur, qui n'est pas forcément le meilleur des présidents. Il y a eu des choix sportifs compliqués à faire.
Est-ce qu'ils ont déjà été, alors tu as dit ils sont jamais descendus, ça d'accord. Est-ce qu'ils ont déjà été mal en point à ce point?
Oui.
Et genre ils se sont sauvés à l'arrache malgré tout?
Non. Alors ils ont eu des mauvaises phases, mais ils ont plutôt bien terminé la saison. Alors j'ai pas l'ensemble des saisons en tête, mais il y avait toujours le fait de se dire ouais il y a plein de bons joueurs, il y a de l'espoir, ils vont recruter un tel, etc. Alors que là il y a quand même un doute sur l'avenir et sur la capacité de rebondir. Et moi ce qui m'inquiète, parce que on peut être d'accord ou pas avec la philosophie de la TT Club de Bilbao, qui en gros ne jouait qu'avec des Basques, moi je trouverais ça dommage que ça commence à limiter la progression et même la survie en première division de ce club. Parce que les supporters étaient capables d'accepter que ça allait être très compliqué de gagner une Liga, quasiment impossible, qu'on pouvait pas lutter en Ligue des Champions en ne recrutant que des Basques ou affiliés. Mais là, on a quand même l'impression que cette limitation que s'auto-impose le club...
Mais tu crois qu'eux accepteraient de changer ça?
Non, ils préféraient descendre en deuxième division plutôt que changer. Ah, simplement, oui. Ça pose une question pour le romantisme du football en se disant, voilà, ils acceptent de pas gagner de titre et de pas gagner de Coupe d'Europe et en tout cas de pas jouer la Ligue des Champions, mais...
Bon, attention, ils n'auront jamais gagné, donc ça, de ce côté-là,
non,
ça change pas.
Mais bon, en Ligue Europa, tu dis, mais là, même survivre, il y a pas si longtemps, ils ont joué la Ligue des Champions, mais c'est vraiment pas possible. Dans un football ultra mondialisé comme aujourd'hui, c'est l'esprit même de
justement,
la Ligue
Bilbao qui est dur à romantisme et d'accepter de ne pas se mêler à tout ça.
Oui, mais avant, il pouvait ne pas se mêler à tout ça et rester en première division, alors que là, il y a un vrai danger.
Voilà. Question maintenant pour Simone Rovera, qui nous arrive là. Apparemment, la Sky et la Rai en Italie annoncent ce soir que Higuain pourrait partir à Chelsea au mercato d'hiver. Ah. Vrai ou faux, Simone?
Alors, c'est vrai que c'est une annonce qui arrive par les deux gros médias italiens. Que la situation est ça. C'est très compliqué pour Higuain au Milan, pour plusieurs raisons. La première, c'est économique. C'est très compliqué, je veux dire, de voir Higuain rester au Milan à la fin de cette saison déjà. Parce que la situation est très simple. Milan a été sanctionné par l'UEFA en raison du fair play financier. Donc Higuain a un salaire déjà hyper cher.
Il n'a pas besoin de l'UEFA pour sortir de la Coupe d'Europe, le Milan.
Mais bon. Ouais. Non, mais là, ils sont vraiment très très mal en point. Donc s'il a une valeur marchande et qu'ils peuvent le vendre, ils vont le faire, quoi. C'est ça qui est terrible.
Higuain, il y a un prix fixé avec la Juve, c'est-à-dire c'est 18 millions pour les prêts cette saison et 36 à la fin de la saison pour l'achat définitif. Après, il y a les salaires, c'est-à-dire 4 ans de contrat sur les 10 millions nets, ça veut dire 19 bruts. Ça veut dire que sur les 2-3 prochaines saisons dans lesquelles Milan est un régime de fair play financier, l'opération Higuain va coûter environ 100 millions. Est-ce que Milan, aujourd'hui, peut se permettre de payer 100 millions sur les prochains 3 ans pour Higuain? Non. On sait très bien que Sarri est un grand fan d'Higuain, avec qui a fait des grandes choses à Napoli. Et de Chelsea, serait arrivé, selon les informations de Sky et de la Rai, un premier intérêt pour Higuain, et Milan serait pas du tout fermé à laisser partir les joueurs et voir si la Juve accepte que soit Chelsea à prendre en charge les prêts et donc l'option des rachats derrière. La dernière info qui est arrivée ce soir est que dans cette opération, Milan serait très intéressé à faire arriver des Chelsea Morata. C'est vraiment quelque chose qui est sorti il y a quelques minutes.
Ça va ranger tout le monde, Simone.
Voilà, parce que, ça peut être intéressant pour tout le monde.
Et Giroud, ils sont pas titulaires. Ouais. Et t'as l'impression que vraiment Sarri, il a envie de quelqu'un d'autre. Et c'est pour ça qu'il met Eden Hazard souvent tout seul devant en faux neuf. Donc Higuain, c'est une bonne idée, je pense. Et puis en effet, c'est soit l'un soit l'autre. Giroud il vient d'arriver, Morata aussi, mais bon, Morata joue plus.
Mais derrière cette affaire, Simonet, qui se fera ou ne se fera pas, mais effectivement, j'ai l'impression que quand plusieurs intérêts se retrouvent, ça finit par se faire. On voit quand même à quel point Milan est très mal en point au niveau financier, alors que derrière Berlusconi, il avait été dit mille choses sur le rachat, des Chinois, des pas Chinois qui sont venus, repartis. On voit que l'Inter, c'est pas beaucoup mieux, et il faut bien se mettre une chose en tête, le championnat d'Italie, même si ces derniers temps on avait senti un léger mieux, mais ça ne pourra jamais repartir comme aux belles années sans les deux clubs de Milan. L'histoire du championnat d'Italie s'est construite avec trois clubs. On peut dire ce qu'on veut de Naples, de la Lazio, de la Roma. Dans l'histoire du foot italien, ce ne sont que des clubs accessoires qui ont leur importance parce qu'ils sont suivis, parce que Naples, il y a la passion, tout ce que tu veux. Mais ça n'est pas comparable avec les trois clubs du Nord. Ces trois clubs-là sont l'histoire de ce championnat. C'est ces clubs-là qui ont tiré le championnat, qui ont fait aussi que les autres derrière ont pu avoir des belles périodes. Mais ce ne sont que des clubs accessoires des trois acteurs principaux. C'est comme si tu avais l'affiche d'un film avec trois acteurs et derrière, ok, t'as d'autres acteurs qui peuvent être très importants, mais c'est ces trois-là. Et visiblement, ça ne s'améliore pas alors qu'on avait cru que ça allait repartir.
On va enchaîner.
Et la Juve risque d'en souffrir aussi de ça. Simonet, t'es d'accord ou pas?
Rapidement, Simonet.
Oui, et pour terminer, je pense, et après l'échec de la saison dernière de Napoli qui n'est pas arrivé à gagner les titres, je pense qu'il n'y a que l'Inter ou que Milan qui puisse aller prendre la Juve sur la série. Sinon, comme dit André Agnelli, elle va gagner pas 8 comme cette année, mais va arriver à 10 ou plus consécutifs. S'il y a une équipe qui peut arrêter la Juve, c'est une des deux milanaises, parce que je ne crois pas que Napoli
Mais avec quel argent, quelle structure, les clubs sont complètement à la rue.
L'Inter c'est beaucoup plus solide, ça devrait être les dernières saisons du fair play financier avec les groupes Suning, qui quand même a fait augmenter d'environ 100 millions les sponsoring recettes dans ces dernières années. C'est un gros travail qu'il y a derrière, mais les deux, les gros problèmes de ces deux clubs a été la première transition entre l'époque d'or Berlusconi et Moratti et les premières propriétaires étrangères, Toir et les Chinois de la saison dernière pour Milan. Aujourd'hui, les deux groupes, Elliott et Suning, sont beaucoup plus solides. Après, la machine a pris du retard et doit payer des dettes qui, à mon avis, sont pas seulement celles de Lee et de Toir, mais des dette encore précédent, parce que aujourd'hui il y a des salaires qui sont trop lourds encore, et il y a des revenus qui ne sont pas assez hautes, et des problèmes du stade qui est toujours vieillissante, qui ne fait pas gagner autant d'argent. Donc, mais aujourd'hui les deux structures sont beaucoup plus solides.
C'est que le fonds américain Elliott a racheté une part de Pernod Ricard. Je ne sais pas s'il y a un lien avec les clubs italiens, mais ils sont sur tous les coups. Elliott en question. Simonet, bouge pas. Une question pour l'Orto maintenant, qui évidemment concerne Hernandez, qu'on annonce au Bayern cet hiver. Là, c'est Jérôme qui te pose cette question sur le hashtag DDDFAQ. Est-ce que FAQ, ça veut dire foire aux questions, parce qu'on me dit c'est quoi FAQ, foire aux questions, voilà. Qu'est-ce qu'on en dit à Munich, mon petit Lorto? Toi, je sais que t'es à Cottbus, t'es pas à côté, mais enfin, qu'est-ce que t'en sais, toi, en Allemagne?
Cottbus.
Alors, ce qu'on en sait, c'est qu'en fait, c'est une espèce de jeu de chaise musicale, si je puis dire. C'est-à-dire que Lucas Hernandez peut jouer latéral, il le fait avec l'équipe de France, il peut jouer en défense centrale, et cette polyvalence intéresse au plus haut point le Bayern, à tel point que précisément le président Rummenigge, l'un des deux président, vous savez qu'il y a aussi Ulenes qui a toujours son mot à dire, Rummenigge a dit à demi-mot, ça a beaucoup surpris les médias en Allemagne, il n'a pas avoué les contacts avec l'Atlético et avec Lucas Hernandez, puisque on peut avoir un contact direct avec le joueur lorsqu'il y a une clause qui est en l'occurrence de 80 millions d'euros. Il ne l'a pas dit, mais il l'a sous-entendu très fortement. Donc l'intérêt du Bayern est évident pour ce joueur-là, pas forcément parce que Boateng et Hummels sont un peu à la rue en ce moment, et depuis la Coupe du Monde, voire même peut-être un peu avant.
Ils vieillissent.
Pas seulement pour ça, mais parce que David Alaba n'a plus de doublure depuis le départ de Juan Bernat. Alors attention, je suis pas en train de dire que Hernandez devrait être une simple doublure d'Alaba, mais au Bayern, évidemment, c'est très important, parce que à droite, on est OK, parce que s'il y a pas Rafinha, on peut mettre Kimmich, et inversement. En revanche, à gauche, on n'a plus de doublure à Alaba. Donc ça, c'est très important pour le mercato qui arrive. Le mercato d'hiver, c'est l'argument principal pour le Bayern. Après, il y a aussi la défense centrale. On pourrait y venir peut-être sur une question future, mais Hummels n'est pas très content en ce moment. Il n'est pas question qu'il parte. Néanmoins, on peut avoir besoin aussi d'un défenseur central. Donc cette polyvalence plaît au Bayern, je vous le confirme. Et le club est prêt à lâcher. Alors on ne sait pas exactement quelle somme, mais est prêt, n'a pas peur des 80 millions d'euros de clause de Lucas Hernandez à l'Atlético.
Dans quelques instants, on est de retour avec Julien Laurence. Ouais. Oui, Fred, tu veux compléter le dossier?
Par rapport à ce sujet, le côté espagnol. Moi, j'ai passé les coups de fil hier soir. C'est surtout une question de salaire. Alors, c'est vrai que le Bayern, ça excite énormément Lucas Hernandez, et c'est tout à fait normal. Il gagne.
Ah oui, non, mais attends, sur ce point, arrête-toi là-dessus. C'est un truc qui l'excite vraiment? Parce qu'en fait, tout te dire, j'étais un peu étonné, parce que je dis...
Parce qu'il est très espagnol.
Il vit à Madrid. Alors, le Bayern, effectivement, un club qui attire, mais c'est un changement de vie, quoi, tu vois.
Oui, mais il est vraiment, et tu peux me croire, il est vraiment très attiré par le projet. Enfin, l'Atlético, c'est un grand club, mais t'as le Bayern qui vient te voir.
Cette magnifique expression.
Et qui est prêt à mettre 80 millions pour toi, et en plus, il gagne 3 millions. En gros, le Bayern lui propose sûrement 5 ou 6. Hein, on est dans ces eaux-là, David, en Allemagne, quand on veut.
Oui, d'accord. Donc, très bien.
Mais la question,
donc, il est très attiré
si
par le projet.
Non, mais attends, Bayern Munich, c'est une super ville, la Bavière est une belle région, il part pas de Madrid pour aller dans un trou paumé, attention.
Après,
mais...
il n'est pas encore parti, si l'Atlético s'aligne sur la proposition financière du Bayern, on peut penser qu'il sera tenté de rester. Mais pour l'instant, il n'a rien signé, rien n'est fait, ça je peux vous l'assurer.
Dans quelques instants, nous sommes de retour avec Julien Laurence et Roger au 32-16 qui veut parler de Manchester et Mourinho. C'est tout de suite dans l'After, bien sûr, on est là jusqu'à minuit avec les drôles de dames.
RMC Football Show, l'Afterfoot, Gilbert Bribois.
Jusqu'à minuit, on est là avec Jérôme Rantel, avec Daniel Riolo, bien sûr, c'est Noël, donc on a plein de cadeaux pour vous. Le grand jeu de Noël continue, inscrivez-vous, vous envoyez Noël par SMS au 732-16, vous avez encore une bonne demi-heure pour le faire, et le tirage au sort va suivre. Avant de continuer avec les drôles de dames, je voulais vous donner 2-3 infos du jour, les gars, que je ne vous ai pas encore donné, vous dire que à Monaco, Franck Passy est nommé adjoint de Thierry Henry. Alors, est-ce que ça veut dire que Thierry Henry considérait qu'il n'était pas assez entouré? Est-ce que...
C'est une certitude, de toute façon.
En tout cas, on considère qu'il y a un problème.
Est-ce que Passy devient le meilleur adjoint de la Terre? Parce qu'il a déjà été adjoint dans plein d'endroits différents.
En tout cas, on considère qu'il y a un problème, que Henry a un problème et qu'il n'y arrive pas tout seul, et qu'il a besoin de s'appuyer sur quelqu'un.
Je pense que...
C'est pas anodin, cette nomination.
Déjà, c'est pas anodin.
Il cherche aussi un adjoint, parce que rappelez-vous que Stéphane...
Ouais.
L'entraîneur de Rennes devait être l'adjoint.
Bien sûr, il a pas pu parce que déjà ils l'ont retenu et tout ça, mais que même avec le recul, je pense que Thierry, il s'est rendu compte peut-être qu'il avait besoin pour un club comme Monaco et sortir de cette mauvaise spirale et surtout d'essayer d'apporter quelque chose, parce que pour l'instant le plan de Thierry, on l'a pas vu du moins. Moi, je comprends rien, je sais pas ce qu'il veut mettre en place. Donc je sais que c'est compliqué. Je pense encore, par rapport à toutes les critiques qu'il y a eu sur son arrivée, dans le bon sens, des critiques positives, en disant, ouais, on a hâte de voir ce que Thierry Henry va faire, oui, il a tout pour, il est un passionné de football, oui, il va y arriver, oui, il était adjoint avec la Belgique, oui, il a ça dans la peau. Je pense que lui, il s'est vu très beau aussi, il s'est précipité sur ce projet-là à Monaco en venant tout seul, et que aujourd'hui, il se rend compte aussi que, tout seul, il n'y arrive pas. Et que il est même pas respecté, parce que c'est pas une question de respect, ça va plus loin. C'est tout à l'heure, je critiquais Rudy Garcia, si tu veux, dans la façon dont il amène son équipe, et il y a rien qui ressort. Quand il y a une équipe qui est fantomatique sur un début de match, avec les mauvais résultats qu'a eu Marseille et maintenant Monaco, que tu vois que c'est un problème d'envie sur certains matchs du côté, pas que, mais en gros à Lyon. C'est un problème d'état d'esprit, d'envie. Là, je me dis que Thierry, son discours, il passe pas. Il passe pas. Donc, il a besoin
après,
de s'appuyer.
Il va récupérer combien de blessés, là?
Oui, non, mais attends.
Ils sont 16 blessés.
Ouais. Non, mais je veux.
Pas tous importants.
Bien sûr que c'est terrible, mais ça, il le savait. Déjà, il y avait beaucoup de blessés quand il était nommé. Il le savait que ça allait être compliqué de ce côté-là. Mais je suis désolé. Quand t'as des jeunes joueurs qui débutent, mais ils doivent manger la pelouse. Et c'est pas le cas à Monaco. Et moi là-dessus, je suis étonné, parce que Thierry Henry, Ah, je sais pas quoi, c'est un
ouais, mec tu te dis les mecs qui vont l'écouter vont se mettre
exactement. Et ben même Thierry Henry, il y arrive pas de ce côté-là. Donc oui, Passy, ça va le soulager. Parce que là, il va Passy va s'occuper de l'animation des séances, lui va prendre un petit peu de recul, peut-être s'appuyer à avoir un peu plus d'entretien individuel avec certains pour les mettre devant leurs responsabilités aussi. Et là, peut-être qu'on va découvrir le vrai Thierry Henry en tant qu'entraîneur. En tout cas, moi, j'ai hâte de voir ça parce que pour l'instant, je suis déçu de ce qu'il apporte.
Allez, revenons à nos drôles de dames qui sont là. Tiens, il y a pas mal de questions, Fred, sur Séville. Julien qui dit, question pour Fred, est-ce que Séville peut venir titiller les trois clubs historiques et pourquoi pas être champion ?
Je parle du FC Séville. Hein. Oui, bien sûr, c'est pas peu titiller, c'est titille déjà. C'est-à-dire qu'on est quasiment à la moitié du championnat et Séville est deuxième de la Liga, à 3 points du Barça, à égalité de points avec l'Atlético. C'est une équipe qui où la greffe avec l'entraîneur, on en avait parlé un lundi soir de Pablo Machin, ancien entraîneur de Gérone, un entraîneur avec une très forte personnalité, avec une idée de jeu très très claire. C'est beau à voir, c'est très équilibré. Il y a un enthousiasme particulier. On sait tous que le Sanchez Pizjuan est l'un des plus beaux stades d'Espagne au niveau de l'ambiance. Il y a une vraie masse sociale, comme on dit en espagnol, une vraie masse de supporters importants. Et il est vrai que Séville a cette chance, c'est qu'elle, par rapport aux autres favoris de la Liga, c'est-à-dire le Barça, l'Atlético, le Real, c'est que Séville ne joue que la Ligue Europa. Donc on sait très bien que c'est pas du tout la même exigence. Donc oui, Séville peut continuer là, et pourquoi pas être champion. L'Atlético l'a fait en 2014, et en plus, il y a un bel effectif. Donc sincèrement, je pense que c'est
possible. Jusqu'à aller champion, toi, tu te poses la question.
Bah, mais quasiment la moitié du championnat, ils sont deuxième à 3 points du Barça.
Ouais, bah après, il faut tenir, quoi.
Attends, une chose c'est après 5 journées, une chose c'est après.
Mais bien sûr que c'est un bilan. Non, mais je suis d'accord avec toi qu'ils sont bien placés aujourd'hui, mais t'as des gros quoi devant, juste derrière. Il faut tenir.
Oui, mais
quoi.
Après, mais il suffit de voir les objectifs des gros. Le Barça, l'objectif c'est la Ligue des Champions. Je l'ai dit jusqu'à la satiété, ça c'est clair. Bon, le Real, on sait dans quel état il est. On peut pas faire confiance à cette équipe cette saison. Et l'Atlético joue sur les deux tableaux, qui est la Liga et la Ligue des Champions, parce que la Ligue des Champions, ça se joue aussi chez eux.
Donc, en plus. Hein.
Et en plus, il y a quand même une chance assez importante que l'Atlético ne soit pas là. Après, je te dis, moi, Séville, tu sais, dans le foot, il faut aussi savoir à quoi on joue. Et Séville, contrairement à beaucoup de clubs qu'on peut voir en Europe, c'est exactement ce qu'il faut faire sur le terrain.
Ah non, mais ça, je te rejoins.
Et les joueurs adhèrent.
Ouais.
Voilà. Donc,
je te rejoins. Tu sens qu'il y a des bons joueurs. Et puis il y a un collectif qui vit bien, tu le vois, cette équipe elle vit bien sur le terrain. Moi je les ai vus quelques fois, alors pas tous les matchs de Séville, mais franchement il ressort quelque chose de positif de cette équipe. Donc ils peuvent tenir. Moi j'ai une autre question, Fred, avant de passer la main.
Juste avant ta question, je viens de recevoir une petite info là. Neymar est au Brésil, hein, je vous le signale. Photographié en train de faire son shopping à Sao Paulo. Donc voilà.
Ne l'attendez plus. C'est bizarre.
Normal, il est blessé.
Ils n'ont pas attendu les Qataris pour que les Sud-Américains partent comme ça. Voilà, ça a toujours existé. Hein.
Il avait dit Nantes. C'est pas bien.
Non.
Ça lui plaisait pas.
Orléans.
Orléans, tu rigoles. T'as vu ce qu'il tombait.
Non.
T'es fou ou quoi, les grêlons qu'il y avait.
Et puis il pleut sur Nantes alors. Donc.
Non, c'est pas bon pour lui ça.
J'ai 15 jours de vacances.
Non, mais de rien, comptez les matchs qu'il a joué en décembre, en dehors de la Ligue des Champions.
Hein? Non, mais lui, il a pas triché, donc lui au pire, allez vas-y. Et puis de toute façon, ils ont beaucoup de points d'avance. Non, moi, Fred, c'était moi pour revenir. Moi, je suis étonné de la saison de Valence, quoi. Parce que Valence,
tout le monde.
On a parlé en bien de Valence. Alors la pépite Guedes qui a rejoint et j'étais
blessé. Il s'est opéré là.
Mais aujourd'hui il est blessé depuis 2 matchs, mais juste avant qu'il a fait.
Non, c'est vrai que Valence. Moi, il y a un truc que je comprends pas et je vais être assez rapide pour laisser un peu de place aux copains. Valence a tout pour réussir, un vrai public, un vrai projet, un entraîneur.
L'année dernière c'était bien, l'année d'avant c'était pas bien.
Mais surtout que cette année, on se dit, ça y est, une stabilité, il se qualifie pour la Ligue des Champions, il y a un propriétaire qui a du fric derrière, Peter Lim, le financier, le milliardaire de Singapour. Voilà, il y a des gens qui connaissent le foot. La différence par rapport aux saisons précédentes, c'est que le directeur général, c'est l'ancien président de Majorque, monsieur Alemany, qui est un type, c'est-à-dire que les gens de Singapour qui connaissent pas trop le foot, ils ont confié le club à des gens qui connaissent la Liga et qui connaissent le football.
Ça, c'est marrant, Marseille, ils ont pas fait ça. Il a confié le club à quelqu'un qui connaît pas le foot.
Ah ouais, ça c'est autre chose. Hein. Mais moi, je te parle de ma zone d'influence, de ma circonscription.
Circonscription. Quel génie.
Non mais les frères Neville manquent hein, en tous les cas.
Ah non mais c'est ça la différence. Tu sais, il y avait les frères Neville qui sont des amis de Mendes, des amis de du propriétaire Peter Lim, etc. Ça a été un désastre. Là, ils ont donné vraiment les clés. Le grand patron, c'est Alemany, l'ancien président de Mallorca, comme je disais. Et là, il y a des décisions qui sont des décisions sérieuses qui sont prises. Et pourtant, la mayonnaise ne prend pas. Voilà, c'est le mystère qu'il y a parfois dans le football.
On enchaîne une question pour l'Orto sur Direct Studio. C'est Nono qui me dit, l'Orto, mouille-toi. Qui va être champion? Le Bayern va-t-il rejoindre le Borussia Dortmund? Mönchengladbach peut-il le faire?
D'ailleurs, tu nous as pas parlé de cette défaite surprenante contre le Fortuna.
Ah ouais.
Bien sûr. Non mais alors
quel effet ça a fait en Allemagne? Alors vieux match de semaine et hop, bim, ça tombe.
Très important, Daniel, effectivement, j'y viens dans une seconde. Non mais simplement, nos auditeurs sont fidèles et je suis un peu étonné parce que ça fait deux fois de suite que je me mouille un lundi soir en disant que le Borussia Mönchengladbach sera champion cette année, du moins que c'est mon favori pour le titre. Ils sont toujours deuxième. Oui, Dortmund.
Et y a pas, c'est une sacrée surprise. C'est pas demain soir le match?
Si, c'est demain soir. Demain soir, 20h30, le premier contre le deuxième.
Mais à chaque fois, je vous dis, les gars, donnez immédiatement les rendez-vous à ne pas manquer pour vos championnats.
Alors,
demain, 20h30, ça se joue à Gladbach.
Je crois que ça se joue à Gladbach.
Non, c'est à Dortmund.
Ah, c'est Dortmund-Gladbach.
C'est
je le dis bien
important.
Ou pas? Parce que j'aimerais bien le dire.
Ça veut dire quoi, Borussia, en allemand, d'ailleurs?
Ça vient de Prusse.
Ouais, d'accord. Et ça veut dire
quoi? Oui, mais c'est pas une réponse, ça. Il veut dire quoi,
il va réfléchir.
C'est une déformation du mot prusse, je pense.
Ah, c'est les Prussiens de Dortmund et les Prussiens de Mönchengladbach.
Demain, ça se jouera à Dortmund à 20h30.
Ouais, mais je vous le dis,
faut le voir ce match.
Pas confiance.
Alors, bien sûr, Daniel, parce que figurez-vous que la défaite de Dortmund, qui est la première de la saison cette semaine contre un promu, qui a en plus fait 3-3. Contre le Bayern Munich récemment, donc c'était pas forcément totalement inattendu, mais c'est quand même un choc. Et en fait, ce sera très important si et seulement si le Bayern s'imposait ce week-end et que Dortmund devait perdre contre Mönchengladbach, ce qui est possible. Parce qu'ils ont quand même encore 6 points d'avance, c'est un coup qui a fait du mal, cette défaite. Lucien Favre, on l'a vu en bord de terrain, était un peu interloqué, parce qu'évidemment, c'est la première de la saison. Et il n'a pas trouvé de solution contre le Fortuna. Et il n'a peut-être que c'est parce que ses joueurs commencent à manquer de jambes. Il n'a pas trouvé la solution tactique alors que d'habitude il avait toujours justement une solution. Et les changements qu'il a effectués ont été à peu près sans effet. Donc c'était un peu nouveau pour Dortmund, dont l'avance a donc fondu de 9 à 6 points. Mais ce sera vraiment la pression sur Dortmund si il devait y avoir défaite contre Gladbach, ce qui est possible.
Ah ouais.
Et si le Bayern s'impose.
En revanche, si Dortmund gagne, ils font un petit trou là. Hein.
Oui, parce qu'en plus, le Bayern joue contre l'Eintracht Francfort, qui est une des belles équipes aussi de la saison marseillaise.
C'est cinquième, oui, c'est un week-end de choc, là.
Voilà, un week-end important, juste avant la trêve, qui dure un petit mois. Et donc, évidemment, dans les têtes, ça va peser. Bien sûr, si Dortmund reprend un petit matelas, ils seront regonflés. Et en revanche, s'ils perdent encore des points, oui, ça va commencer à être important. Parce que le Bayern est bon aussi quand il est dans la position du chasseur, bien sûr. Donc c'est un week-end important et ça commence demain soir.
Les Sud-Américains, là, c'était à chaque fois là, à Noël, ils se barrent et en retard. En fait, ils devraient tous jouer en Bundesliga. Là-bas, ils ont un mois de trêve.
Ah bah ils sont tranquilles.
Ah, Pizarro, il a tout compris.
Mais c'est vrai, pourquoi ils ont.
Oui, exact.
On devrait avoir beaucoup plus de Brésiliens. Ouais. Bon, alors, donc demain soir, hein, Borussia Dortmund-Gladbach, gros affiche 20h30. Juste David pour être bien sûr, parce que j'hésitais, il y a Châteauroux-Ajaccio. Qu'est-ce que je regarde?
Bah, si tu veux du suspense. Tu regardes l'Allemagne, parce que cette saison...
Il y a Nure-Brest aussi, je sais pas trop quoi faire en fait.
Ouais, puis
attends,
Nure,
c'est chaud là,
aussi.
Changement d'entraîneur et tout...
Merde.
Ah oui.
Bon, bah, je vais regarder Nure.
Et Brest, ils sont bien.
Bon, bah laisse tomber alors. Bon,
et tu puis si tu veux voir du français, tu as la Sainte-Play à côté de Gladbach, c'est pas mal.
Exactement.
Bon, bah, je vais regarder Dortmund-Gladbach alors.
Alors, pour Simonet, une question sur toujours Mercato. Que va-t-il se passer à la Juve au Mercato d'hiver, me demande-t-on. Alors, il y a certains qui fantasment sur un retour éventuel de Pogba. Maintenant, le départ de Mourinho, fait peut-être que Pogba bougera pas. Enfin, je sais pas, est-ce que tu as des bruits, Simonet, toi qui es un spécialiste du Mercato?
Bah, alors, il y a sûrement l'idée de prendre un milieu de terrain, c'est quand même plutôt clair dans les stratégies du club, soit parce que Khedira vit une saison avec quelques blessures et on voit qu'il est plus sur la fin, donc il voudrait avoir un élément en plus. L'idée Pogba était très très forte vu ses relations tendues avec Mourinho, ça faisait la une des journaux, la Gazzetta, même Tutto Sport, avait fait plusieurs unes sur l'effet que Pogba avait déjà ouvert la porte à un retour à la Juve si Mourinho restait. Là, la situation risque d'être un peu compliquée. Les noms qui reviennent depuis quelques jours, c'est celui que j'avais fait là beaucoup la saison dernière, et c'est Milinkovic-Savic de la Lazio qui vit une première partie des saisons que dire nul et très généreux, catastrophique avec la Lazio.
Mais tu nous l'as survendu là, 100 millions là maintenant il vaut que dalle.
Ouais, ouais.
Maintenant pour une poignée de figues on l'achète.
Là, c'est pas l'idée de Lotito pour vous dire, il a encore, il y a quelques jours, avoué, raconté d'avoir reçu une offre à 150 millions refusée et qu'il ne veut 170. L'effet qu'il continue à faire gonfler les prix, ça montre qu'il a besoin de vendre, à mon avis, et qu'il y a moins de clubs intéressés. C'est sûr que ça serait compliqué, à mon avis, faire un si gros investissement sur un joueur en janvier quand tu as déjà fait celui de Cristiano cet été, mais la Juve veut prendre un milieu de terrain et c'est cette piste Savic devient un peu plus chaude avec le début du mercato, mais pour le reste Massimiliano Allegri est tellement heureux d'avoir tous ces joueurs disponibles. Aujourd'hui a été officialisé même la prolongation de Alexandro, donc les joueurs forts arrivent à la Juve, ceux qui sont très bons restent. Je ne vois pas en quoi Allegri et la Juve doivent aller chercher encore cette année, mais apparemment ils veulent encore un top player en plus.
Ok, Fred, il y a beaucoup de questions sur Mourinho et notamment cette question là. Alors attends, je la retrouve. Voilà, c'est Sly qui nous dit mais d'où viennent toutes ces voix qui se lèvent parlant d'un retour de Mourinho à Madrid?
Bah, beaucoup de supporters déjà, puisqu'on peut estimer que un quart ou un tiers des supporters du Real Madrid restent fascinés par Mourinho. Ça, il a un côté un peu gourou de secte, et en Espagne, cette secte mourinesque a beaucoup d'adeptes. Ce sont les gens qui aiment quand leur entraîneur n'est pas fair-play, qui aiment quand leur entraîneur attaque les arbitres, parce qu'ils ont l'impression que leur club est défendu. Quand cet entraîneur commet des excès. Et puis il y a aussi le fait que je l'ai déjà expliqué, mais j'insiste là-dessus, que Mourinho est parti en très bon terme avec les dirigeants du Real, à commencer par l'homme qui compte, Florentino Pérez, qui en privé, moi me l'a déjà dit, considère Mourinho comme l'un des meilleurs entraîneurs qu'il ait jamais eu, même si il faut parfois le contrôler, même si Mourinho au club c'est une crise tous les jours, on n'est jamais tranquille. Mais voilà, et Florentino Pérez est
aussi fasciné. On oublie que le Real n'a pas d'entraîneur, enfin un entraîneur qui a priori est un intérimaire, quoi.
Oui, oui.
Parce que donc, si c'est pas pour maintenant, au moins pour la fin de l'année, à un moment il va falloir quand même qu'un entraîneur de renom arrive sur ce banc.
Oui, mais c'est-à-dire que Solari a signé un contrat jusqu'en 2021, mais on sait très bien que s'il n'y a pas un titre avant la fin de la saison, Solari va pas rester. Donc l'option Mourinho, je pense qu'elle est peu probable, mais elle n'est pas du tout impossible, je dirais même qu'elle est possible. Pour une raison très simple, c'est qu'il y a un président qui l'aime beaucoup, et puis s'il n'y a pas de titre à la fin de la saison, ça veut dire qu'il y aura un gros nettoyage en vestiaire, et Mourinho, pour faire ça, bah, on sait que... Il peut très bien être le père fouettard dont pourrait avoir besoin le Real Madrid. Après, c'est une vision erronée à mon sens, puisque Florentino Pérez adore les entraîneurs à poigne, mais ceux qui lui ont ramené des titres, ce sont justement des entraîneurs qui sont en empathie avec les joueurs, les Zidane, les Ancelotti, les Del Bosque, les Yupankes. Mais voilà.
Et à Ramos, par exemple, il peut pas arriver, ils peuvent pas sortir du bois en disant, nous, Mourinho, les mecs, oubliez-le, on en veut pas. Il l'a déjà fait pour d'autres.
Et si c'était le moyen de faire partir Ramos?
Oui.
Je pose cette question.
Ouais. Mais qu'est-ce qui se passe avec Ramos? Le meilleur défenseur du monde?
Oui, mais il y a un moment, c'est quand même un capitaine qui a beaucoup
de pouvoir. Il y a toujours un moment où il faut tourner les pages, demande à Fred.
Ouais, et puis à un moment, il faut peut-être reprendre un certain pouvoir. Et voilà, et Ramos, c'est un type qui a un pouvoir énorme. C'est pas Messi au Barça, mais il a un pouvoir énorme au Real.
Alors, plus important que Benzema.
C'est une grosse intéressante.
Pardon? Pas déconner, si.
Bah, Benzema est numéro 3, donc Benzema est...
Plus important que toi?
Il est capitaine numéro 3.
Il est pas plus important que toi?
Toi,
t'es... Dans l'influence auprès de Pérez, t'es plus influent ou moins que Benzema?
Non, que Ramos.
Non, arrêtez vos conneries. Mais franchement.
C'est kiff, kiff. Non, mais franchement.
Mais non, mais sinon, mais Karim, ça se voit plus.
Voilà, toi, t'es plus discret.
Benzema, t'as fait sa carrière, quand même. Il peut te remercier tous les jours. Sans toi, il est pas grand-chose.
Je veux dire, je sais pas si je lui ai fait sa carrière, mais en tout cas, il est en train de faire sa saison, là. Ouais, ouais. Buteur du Real, il joue très bien.
Dans quelques instants, nous sommes de retour. On espère toujours Julien Laurence. Je sais pas, il s'est peut-être.
Qu'il a
Jenny. Dans un bouchon. Alors, il négocie un truc avec Pochettino pour aller à United, comme il nous l'a annoncé. En tout cas, on vous attend. Le 32-16, le hashtag DDDFAQ foire aux questions jusqu'à minuit. Profitez de droit de dame parce qu'après, elle part en vacances. Hein. Donc, c'est ce soir ou jamais. À tout de suite.
RMC Football Show. L'Afterfoot, Gilbert Bribois.
Jusqu'à minuit, Daniel Riolo et Jérôme Rotten sont là, bien sûr. Tiens, on accueille Roger au 32-16. Alors, Roger attendait avec impatience l'arrivée de Julien Laurence. Roger, salut.
Salut.
Bon, merci d'avoir patienté. Hein. Alors, rien que pour ça, on va t'envoyer un joli t-shirt de Noël, là. Ce sera un cadeau. Et en plus, deux places de ciné, parce qu'on avait ça en magasin. C'est pour toi, Roger. C'est cadeau. Tu voulais parler de Mourinho, on t'écoute.
Pas spécialement de Mourinho, mais est-ce que je peux faire deux remarques avant, comme c'est la fin de l'année.
Bien sûr, tu es chez toi.
Alors, je souhaitais dire à Daniel que je suis fan, tellement que mes amis m'appellent Rioliste. Alors,
Rioliste, mince alors.
Oui.
Mais oui, Roger, merci beaucoup, bravo.
Ils ont fait plaisir. Très, très bien.
Donc, il y aurait les Riolistes et les Roténiens.
Oui, ça serait pas mal, ça.
L'école Roténienne.
Darmel, en tant qu'homme, ça doit être un homme agréable, mais en tant que journaliste, je trouve qu'il mélange journaliste et supporter. Et ça, je ne peux pas le supporter.
Permets-moi de défendre Fred Hermel.
Ouais, moi aussi, on le défend parce que quand t'es ambassadeur d'un club, c'est pas facile, hein.
Non, Jérôme, c'est sympa.
Fred.
Ok, les mecs, on va rester là,
je veux que tu restes là. Moi, je veux vraiment te défendre. Roger, écoute-moi.
Là, mais franchement.
Roger, écoute-moi.
C'est fatigant. Je vais t'inviter à venir un jour faire mon métier et on en reparlera. D'accord.
Fred, je vais t'expliquer un truc.
Ambassadeur.
Pourquoi vous n'acceptez pas un peu des fois une petite critique?
Surtout qu'il y a une petite critique.
C'est une insulte à mon travail, monsieur.
Oh là là,
parce que moi, monsieur, j'ai jamais pris un centime d'un club. Jamais de ma vie.
Ah, bah, le faire gratos. Écoute, tu te fais avoir. Là, franchement.
C'est mon ressenti. Est-ce que j'ai pas le droit de le ressentir?
Moi, j'arrête. Allez, salut les gars, à bientôt.
Attends, stop. Arrête-toi, les gars. C'est un sujet sérieux.
Daniel, je ne te pardonnerai jamais, puisque rappelle-toi la discussion qu'on a eue au mois de septembre. Et ça, je te pardonne. Je ne jamais, Daniel. Et faire ça juste avant Noël, je trouve ça lamentable.
Fred, je vais t'expliquer un truc, Roger.
Oui.
Fred vit en Espagne depuis combien, 30 ans ?
26 ans.
26 ans, bon, un peu moins de 30 ans, en l'occurrence. Fred est fondamentalement de culture espagnole. Je pense que Fred, tu voilà. Et en Espagne, on a une façon de faire ce métier qui est peut-être différente de la France.
Oui, mais ça, je comprends ça.
Tu comprends ça,
vous l'avez déjà expliqué.
On l'a déjà expliqué.
Mais à la différence, est-ce que moi, je peux donner mon avis? C'est que moi, j'accepte que Simone Rivera, je ne cache pas son nom, qu'il soit supporter des clubs italiens. C'est un Italien. Mais moi, ce que je n'arrive pas à comprendre avec les Français, c'est qu'ils partent à l'étranger et quand ils arrivent à l'étranger, et Daniel disait souvent les défauts des Français. Je pense que Daniel a ce petit défaut-là. C'est mon ressenti, c'est mon avis. L'herbe est toujours plus verte ailleurs.
L'herbe n'est pas plus verte à Madrid que Fred Hermel. Il est de Madrid, le gars. C'est pas parce qu'il s'appelle Fred Hermel.
Non, mais franchement, ça intéresse pas les gens.
Sinon,
c'est intéressant. J'aime bien. C'est intéressant comme débat.
Ouais, c'est ça. Ouais.
Bon, toi, tu fais la tête. Avant Noël, tu vas faire un gros boudin.
Non. Mais excusez-moi, monsieur, je vais vous expliquer quelque chose. Oui, j'aime beaucoup les clubs espagnols et je défends, monsieur, j'aime beaucoup les clubs espagnols. C'est un pays qui m'accueille depuis 26 ans, qui m'accueille les bras ouverts depuis 26 ans, ok. Et oui, je suis français 100%, ok. Et les Français d'étranger, nous sommes autant français que les autres, ok. Première chose. Et l'autre chose, oui, il se trouve que les clubs espagnols gagnent tous les titres. Que veux-tu que je te dise, que les clubs espagnols sont nuls, mais ils gagnent tous les titres.
Je te l'enlève pas que les clubs espagnols gagnent tous les titres. Je te l'enlève pas, c'est une réalité. On va pas l'enlever. Mais que tu sois des fois soit un peu... Excuse-moi, c'est mon ressenti, je peux me tromper, j'ai le droit de me tromper, je suis pas parfait. Mais c'est de la manière que je le ressens, ne le prends pas comme une insulte ou comme un truc.
Ouais, mais c'est une insulte, quoi. Monsieur. Et moi, je vais vous dire un truc. Le jour où vous voudrez un journaliste qui n'est pas enthousiaste de ce qu'il fait, eh ben, il faudra demander à mon patron de me virer. D'accord?
Okay. Après, on va pas se mentir, Roger. Oui. On a tous, que ce soit ici, nous, tu vois, le studio de l'After est à Paris, dans le 15e arrondissement. Fred Hermel est à Madrid. Simone Rovira, il se balade entre l'Italie et Paris. L'Orto, il est entre Magdebourg et Côte-Bousse. Bon, ouais. C'est son délire. chacun a ses affinités. Avec un club, avec une région.
On est d'accord.
Et en fait, je vois pas le problème.
Daniel
aime dire, dans l'exercice de son métier, il est neutre. Et j'apprécie ça. il est là pour donner des informations que nous, public, nous n'avons pas.
C'est vrai.
Avec Fred, t'es servi, voilà. Parce qu'il te donne des infos plus
vite. Je sais pas ce qu'il faut faire, les amis, hein. Je sais pas ce qu'on peut faire. Mais je vous invite, cher monsieur, à venir passer un mois avec moi. À venir passer même une journée de mon travail.
Voilà. Bruno Genesio a invité Daniel à l'entraînement. Fred invite Roger à Madrid. Voilà. C'est beau, là.
Mais messieurs, vous savez, si vous donnez moi, c'est très simple. Il y a deux clubs phares actuellement, depuis quelques années en Allemagne. Si je donne une information qui met un peu en difficulté Dortmund, je me fais incendier sur les réseaux par les gens du Bayern, les supporters, les sympathisants, et vice versa. Donc ça, c'est...
Cité tous les Allemands Ballon d'Or, donc à un moment t'es tranquille.
Oh les gars, arrêtez de chouiner là, vous faites secouer sur les réseaux. Je vais vous donner mon compte, vous allez voir ce que ça veut dire se faire incendier, arrêtez de chouiner. Hein.
Tiens bon, mon petit frérot.
Tu cherches. Et Daniel, je vais te dire que toi et moi c'est fini, Daniel. D'accord, c'est fini parce que tu te souviens pas des discussions qu'on a eues au mois de septembre et de la douleur que ça représente pour moi de me faire insulter de cette manière.
On va conclure avec Jérémy. Fred, Jérémy, bonsoir.
Bonsoir.
Non, ça passera pas.
Jérémy, tu voulais nous passer un petit message là.
Eh ben, bonjour à tous. Jérémy, je suis un peu ému parce que c'est la première fois que je passe dans la sphère.
Bah, bienvenue, Jérémy.
C'est normal.
Et puis, je pense que Jérôme Rotel, il avait passé un message sur Facebook il y a quelques mois, juste avant la Coupe du Monde, je crois, pour avoir piqué. Vous vous rappelez la petite mascotte piqué?
Ouais.
Ah, la petite mascotte du Mondial 86.
Exactement.
Exactement. Et ben, ça y est, moi, je l'ai retrouvé dans mes placards.
Eh ben moi je l'ai et
tu l'as?
J'oublie. Ouais, et ben il y a une fidèle auditrice et supportrice
il t'a envoyé piquer?
Non, qui est venue jusqu'à ici, Aurélie, je la remercie encore pour me donner ce cadeau il y a quelques mois et j'ai promis de la ramener à chaque fois j'oublie.
Mascotte de quoi?
Ouais, mascotte du Mondial 86.
Mascotte,
tu te souviens pas du tout.
Si, tu sais, on avait parlé
un
des mascottes
mexicain avec un sombrero.
Avec le grand chapeau jaune, oui.
Piqué.
Piqué comme Gérard Piqué.
Ouais.
Ah bah non mais attends, Jérémy, on va la prendre pour notre décor.
Non, mais je vais te ramener la mienne.
Et depuis qu'on est installé ici, que sont devenus nos footix et nos petits machins, nos poupées qu'on avait.
T'inquiète, ils sont dans un placard bien au chaud.
Et les machins, comment ça s'appelle là, le personnage tout gentil là.
Mais
ton mythe est bisous tout ça.
Là, quand Daniel, on dit on n'est pas dans le monde.
Daniel,
de quoi. Ah bisounours.
Daniel, chaque chose en son temps. On a dit on changeait le décor. Le décor, il a 10 ans.
Donc mais le décor, on va bientôt en avoir un nouveau.
Mais Milou, ils sont
bientôt, oui.
Bah, c'est vrai qu'à la Coupe du Monde, ils sont devenus Tintin, les Milou.
Jérémy, en tout cas, merci de la proposition, hein, pour ce.
Et Roger, il est parti, je peux
tu peux le garder.
Le Rioliste, là.
Le Rioliste. Bah,
il était bon,
incroyable. Tout ça, dire qu'à cause de Roger, Fred Hermel va me faire la tête pendant 2 semaines.
Pas 2 semaines, Daniel. Pas 2 semaines. T'as eu ta chance, c'est fini.
Grand jeu de Noël.
Non, c'est fini.
Tout de suite. Et c'est Bassim qui a gagné ce soir le grand jeu de Noël. Salut Bassim.
Salut Gilbert, salut à tous.
Salut Bassim.
Tiens, c'est Jérôme qui va te donner ton cadeau ce soir.
Bassim.
Écoutez, avec un B comme Bribois. Attention, ouverture d'enveloppe.
Qu'est-ce qui te ferait plaisir?
Ah Jérôme, fais-moi plaisir.
Qu'est-ce qui te ferait plaisir?
PSG Metz, t'as mis une reprise de volée pied gauche. C'est le premier match au virage.
C'est un des plus beaux buts au Parc des Princes de l'histoire.
Mais est-ce que le cadeau sera
une tablette tactile.
C'est bien.
Oh là là là. Toujours à régaler. Merci à tous.
Ouais.
Bassim, t'es supporter du PSG?
Ouais.
Bon, donc le souvenir de Jérôme que t'as, c'est ce but contre Metz.
C'était mon premier match au virage Auteuil. C'était un vendredi soir.
Je peux comprendre que ça marque.
On a gagné 4-1. Il avait mis un beau but. C'était un beau match.
Ouais.
Tout s'est passé de Calou.
C'est ce but là.
C'est David Guimara qui est de retour.
C'est pas le même but, c'est pas le même but les gars, c'est pas le même but.
Comment ça c'est pas le même but?
Ah non, c'est pas le même but, c'est un autre but, c'est une reprise de volée à intérieur pied gauche.
Ah ouais, bah Jérôme, tu t'es régalé face à Metz.
Exactement.
Donc c'était pas Maréchal dans les buts alors.
Non, c'était 20B. C'était 20B. Et ce jour-là, on avait gagné 4-1, premier match du championnat. Donc on prend la tête du championnat.
C'est ça.
Et là, on a fait le tour d'honneur. Et j'avais marqué, j'avais donné 2 ou 3 balles de but. Bon, c'est pas mal. Un bon petit match de reprise.
Ouais, Kalou quand même, il avait fait 3 passes décisives. Hein,
aussi, ouais. Non, 2.
Kalou vient tout passive, impressionnant.
Les gars, si ça vous dérange pas, je peux passer un petit message.
Vas-y.
D'abord, je veux vous remercier. Ça fait 11 ans que je vous écoute quand même. Ça fait bizarre de vous avoir pour la première fois en ligne. Ensuite, allez follow les Celtics, @lescelticss sur Twitter, les gars, c'est des gars sympas, t'es passionné, ça parle foot, du vrai foot, et big up à mon grand frère, Beram, s'il m'écoute. Et voilà, bah merci en tout cas.
Écoute.
Voilà. Salut Bassi, merci à toi et joyeux Noël. Un dernier message sur le hashtag RMC Live.
C'est Fred Hermel pour Daniel.
C'est Jules, non, Jules.
Je sais pas pourquoi c'est moi qui ai pris.
Je dis moi, j'adore Fred, change rien Fred, t'es le meilleur. Et moi je dis la même chose à mon Fredo.
Ouais, on pense.
Joyeux Noël à tous. L'after continue demain.
Juste avant Noël,
Nico Villas sera là. Merci les gars, Fred, Julien. Non, je ne sais pas. David et Simonet, bonne soirée à tous. Et demain soir, l'after sera là. Juste après la Ligue 2 aux alentours de 22h20.
Enfin, surtout après Dortmund.
Bonne nuit à tous.
Bonne nuit, Fred.
RMC Football Show, l'After Foot.